C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Les gens sont pas très contents à Québec ces jours-ci. Plein de raisons, hein. Il y a toute la saga du troisième lien, mais il y a aussi un problème récurrent, c'est celui des annonces gouvernementales importantes. Selon la loi de la Capitale-Nationale adoptée en 2016, ces annonces devraient se faire à Québec. Mais parfois, le gouvernement, petit coquin, fait ces annonces-là ailleurs en province. Et aujourd'hui, ben, Éric Girard a tenu son événement pré-budget à Longueuil plutôt qu'à Québec. Le budget, c'est demain. On va parler de tout ça avec Jérôme Landry, animateur au FM 93 à Québec. Salut, Jérôme!
Salut, Patrick!
Bon, ça chiale encore à Québec.
Ben, écoute, une fois qu'on a dit qu'on a convenu que c'est pas un drame national non plus, là,
en
on
effet.
S'entend, là. Moi, ça me heurte. Quand j'ai appris ça ce matin en écoutant Jonathan Trudeau avec Paul Arcand ce matin, ça me heurte. Puis je pense que c'est pas nécessairement de la mauvaise foi là, de la part du gouvernement. C'est surtout de la paresse. C'est que souvent, c'est moins compliqué de tenir certaines rencontres à Montréal et tout ça. Et là, l'histoire du budget, de la présentation du budget, c'est quand même une tradition qui est assez ancienne. Ils ont rompu un peu aussi avec la tradition. Il n'y a plus d'achat de souliers là, depuis quelques années. Mais moi, je pense quand même que c'est le genre d'événement qui doit se passer dans la capitale, à Québec, où tu présentes le document budgétaire devant les journalistes parlementaires aussi, comme notre collègue Louis Lacroix et les autres qui sont là aussi, qui font partie de la tribune de la presse. Et il y a un peu de, je trouve qu'il y a un peu d'inconscience, il y a un peu d'arrogance, je trouve, dans ce geste-là encore de la CAQ aujourd'hui.
On va revenir à cette loi-là, la loi de 2016 sur la capitale nationale, mais avant, là, je veux te faire entendre un cri du cœur de notre premier ministre.
Il faut écouter les citoyens de Québec. Pour un chef national, c'est important. La ville de Québec, la grande région de Québec, j'inclus la Rive-Sud, c'est ici qu'on a marqué au début de la CAQ, où on est allé chercher beaucoup d'appui. Bon, je le dis souvent, c'est pour moi la plus belle ville au monde. J'y habite la moitié de la semaine et il n'est pas question de perdre Québec.
Donc, Jérôme, il y a une loi qui force le gouvernement à dévoiler, à tenir ces grands événements, ces grandes annonces à Québec. Le PM lui-même dit que c'est la plus belle ville au monde, il adore Québec. Pourquoi ils font pas plus d'annonces importantes à Québec, tu penses?
Bien, c'est ça, je pense que c'est plus simple de les faire à Montréal. Et pourquoi c'est plus simple de les faire à Montréal? C'est que le PM, dans la réalité, il habite à Montréal. Et ça, je pense qu'on est un peu responsable de ça, nous autres, ici à Québec, parce qu'on laisse aller ça. Rappelle-toi de Jacques Parizeau. Jacques Parizeau est le dernier premier ministre qui habitait pour vrai à Québec, avec la fameuse l'Élisette qu'on avait surnommée.
Oui, la résidence officielle.
1080. Là, oui. Et après ça, quand Lucien Bouchard est arrivé, on a complètement coupé avec cette tradition-là, parce que je pense que Lucien Bouchard n'était pas nécessairement quelqu'un qui appréciait vivre à Québec à temps plein, comme le faisait monsieur Parizeau. Après ça, il y a eu Jean Charest. Jean Charest habitait pas vraiment à Québec, mais on sentait qu'il y avait une espèce d'intérêt de... Il trouvait ça important. Il s'était d'ailleurs déjà octroyé le titre de ministre responsable de la grande région de Québec. Et sous monsieur Charest, on a eu beaucoup de grands projets, comme la promenade Samuel de Champlain, entre autres, le centre Vidéotron. Il y en a eu quelques autres comme ça. Donc, on laisse ça aller. Je te donne un autre exemple, Patrick.
Je t'arrête une seconde. Es-tu en train de dire, Jérôme Landry, que sous le gouvernement de Jean Charest, Québec était mieux traité que sous le gouvernement de François Legault?
Ah oui, écoute, regarde les réalisations sous Jean Charest. Là, on peut se questionner sur ses motivations. Est-ce que M. Charest, à une certaine époque, voulait faire oublier ce qui se passait dans le financement des partis politiques, le monde de la construction, etc., peut-être. Mais c'est le gouvernement qui a autorisé le financement d'un amphithéâtre à Québec. La promenade Samuel de Champlain, là, la CAQ a beau aujourd'hui se vanter d'avoir été le gouvernement qui était là quand on a livré certaines phases du projet, mais c'était l'idée du gouvernement Charest, de Sam Ahmad également, à l'époque. Puis aujourd'hui, Patrick, là, Québec, sans la promenade Samuel de Champlain, personne n'imagine ça. Donc, Québec a été beaucoup plus favorisé. Le bilan des libéraux dans la région de Québec est largement supérieur à celui du gouvernement Legault, à mon avis.
Tu vas faire mal à M. Legault là, en disant ça. Là. Je t'avertis. Là.
Peut-être.
Je veux t'entendre sur, justement, revenons à cette loi, la loi de 2016 sur la capitale nationale. C'est assez vague quand même quand on dit que les événements importants doivent s'y tenir, les annonces, etc. Qu'est-ce qui devrait s'y tenir puis qu'est-ce qui est correct de ne pas tenir à Québec?
Je te donne un exemple. Quand François Legault rencontre Charles Lémont de la Caisse de dépôt, je ne sais pas si tu as déjà visité l'appartement de fonction du premier ministre ici à Québec, c'est dans l'édifice Price, OK, juste à côté du château Frontenac, juste à côté de l'hôtel de ville de Québec. Donc, dans cet édifice-là, qui est un des plus vieux gratte-ciels au Québec, là, un des plus vieux édifices en hauteur à Québec, il y a de un l'appartement de fonction de François Legault, mais il y a aussi les bureaux de la Caisse de dépôt qui sont là, imagine-toi donc. Puis je comprends que le siège social est à Montréal, et je ne suis pas certain, j'ai pas vérifié toutes les rencontres, mais quand il y a des rencontres entre M. Aymon et M. Legault, ça semble se passer assez souvent à Montréal, alors que ils sont les deux dans la même bâtisse ici à Québec. T'sais. Puis je pense que le problème, je reviens à M. Parizeau, le problème du fait que c'est plus simple de faire les rencontres à Montréal vient vraiment du fait que le premier ministre habite Montréal puis vient à Québec un peu par obligation. Puis moi, ce qui me dérange là-dedans, Pat, c'est que le milieu de vie qu'on offre au premier ministre ici, là, c'est loin d'être un milieu exécrable. Là. T'es au cœur de la ville fortifiée, patrimoine mondial de l'UNESCO. Il me semble qu'on a déjà vu pire comme milieu de vie.
J'en doute pas, là, mais je vais me faire l'avocat, j'allais dire l'avocat du diable, mais M. Legault n'est pas le diable. Là. c'est un gars qui a fait sa vie à Montréal, sa famille, ses amis doivent être à Montréal. C'est tentant de revenir en ville à la fin de la semaine de travail quand même. Là.
Je comprends. M. Parizeau n'était pas quelqu'un qui était né à Québec non plus. Puis il a quand même habité Québec. Joe Biden vient de Wilmington, Delaware. Ben, il habite la Maison-Blanche.
Mais quand il était sénateur, il retournait en train, je pense, chaque jour dans le Delaware.
Oui, dans le Delaware, c'est juste à côté aussi. Mais en tant que président américain, je pense que Joe Biden habite la Maison-Blanche. Même Donald Trump habitait pas mal la Maison-Blanche, malgré qu'il y a des propriétés ailleurs aussi. Justin Trudeau a l'air d'être souvent à Montréal, honnêtement. J'ai pas son agenda au complet, mais je pense que Justin Trudeau, on peut dire qu'il gouverne, qu'il prend ses décisions, que les rencontres importantes ont lieu à Ottawa aussi.
Oui, c'est vrai. Le maire Marchand a mis son grain de sel dans ce débat-là.
Oui, le maire Marchand est un peu froissé de ça aussi.
Pas la première fois, d'ailleurs.
Non, c'est pas la première fois, puis ça revient souvent. Je me demande s'il faudra pas clarifier la loi un peu, puis encore une fois, on comprend, là, je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit aujourd'hui en me disant « Hey, il y a bien d'autres problèmes que ça à gérer au Québec. »
Je comprends, mais évidemment.
Moi, je m'attends à ce que mon premier ministre, oui, prenne des bonnes décisions comptables, mais que je m'attends à ce que le premier ministre ait aussi une espèce de conscience de l'histoire, une espèce de sens des traditions aussi, surtout que Québec, à mon avis, c'est sûr que c'est ma ville natale, je suis pas objectif, Patrick, là, mais à mon avis, c'est pas n'importe quelle capitale non plus, c'est aussi la plus vieille ville au Canada, c'est aussi le berceau de l'Amérique française, c'est aussi le patrimoine mondial de l'UNESCO, et on dirait que lui, écoute, il regarde ça un peu de haut, puis ouais, c'est une bien belle ville, mais dès que j'ai la chance de retourner à Montréal, je retourne à Montréal. Quand il rencontre Michael Sabia, je pense que ça devrait se faire à Québec aussi. Se faire à Québec.
Toutes les rencontres, tu penses? C'est-à-dire que Sabia devrait se rendre à Québec pour aller rencontrer le PM.
Ben, je pense que oui. Tu sais, là, je suis pas en train de te dire que le siège social d'Hydro-Québec devrait nécessairement aussi être à Québec. Mais prenons le ministère des Finances, OK? Le ministère des Finances, pour te situer, c'est juste à côté du Château Frontenac. C'est l'ancien palais de justice de Québec. C'est un des bâtiments les plus prestigieux au Québec, à mon avis, le ministère des Finances. Architecturellement parlant, c'est magnifique. Et pour moi, j'ai l'impression qu'ils referont plus ça. Là. Je pense que l'an prochain, on va revenir à la tradition de faire ça à Québec. Là. Je pense qu'ils vont pouvoir se passer de cette mini-controverse-là. Mais pour moi, ce genre d'étape-là, comme aujourd'hui, de présentation du document, devrait se faire dans le bureau du ministère des Finances.
Jérôme, je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais j'ai une autre clip du premier ministre, si tu permets.
Oui.
C'est important de consulter la population, puis de pas exclure la possibilité d'avoir un troisième lien, que ce soit un pont, un tunnel pour les camions. Regardez toutes les possibilités.
Penses-tu que son leg pour Québec, c'était le troisième lien, puis finalement, on sait ce que c'est devenu?
Ouais, écoute, je pense qu'au début de son mandat, je pense qu'il y avait une intention, mais je pense que ça n'a jamais dépassé le stade d'idée, ça. Le projet de troisième lien, il n'y a pas eu de réelles études qui ont été faites. Il n'y a pas de travaux préparatoires qui ont été débutés. Si dans sa tête, ça allait être son leg, je pense que ça a été très, très, très éphémère au tout début de son mandat. Mais écoute, est-ce que ça prend un leg? Absolument, je ne sais pas, mais je pense qu'il va être obligé de se poser quelques questions sur justement le bilan caquiste à Québec dans les dernières années, alors que c'est un peu né ici, là, avec l'ADQ, et c'est un peu ici que, sans dire que tout a commencé, mais disons qu'ils ont pris de l'importance politiquement.
Merci d'avoir pris une couple de minutes, Jérôme. Bonne journée.
Salut, Patrick. Bye.
Salut, bye. Jérôme Landry, animateur au FM 80.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Hier, à l'occasion de la fête des mères au Royaume-Uni, Kate Middleton, la princesse de Galles, a publié une photo d'elle avec ses enfants. C'était spécial parce que ça fait des semaines et des mois qu'après une opération, la princesse de Galles est absente de l'œil public. Donc là, c'est une façon de dire, écoutez, je suis revenu, je vais bien. C'est une photo avec les enfants. Petit problème, la photo a été retouchée. Shocking! On va aller rejoindre Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui est à Paris, incidemment. Salut Philippe!
Salut Patrick, ça va bien?
Moi, ça va bien, mais avant qu'on parle du vif du sujet, Dieu sait qu'il est vif, oui. Qu'est-ce que tu fais à Paris?
J'essaie de faire rire les Parisiens puis de pas faire honte au Québec. Pour l'instant, ça se passe al dente, je te dirais. Mais pour vrai, si je suis vraiment là pour des spectacles, et donc je suis là en attendant, là, je profite de la ville, puis j'essaie de démystifier ce qui fait rire les Parisiens.
C'est pas évident?
Ben, on m'a dit, on m'a dit, je cite, en arrivant par le comité d'accueil qu'on appelle les gardes frontières, j'espère que votre accent sera pas un handicap. Apparemment, je me qualifie pour les Paralympiques juste avec mon accent.
Bon, OK.
C'est à l'image du reste de c'est à l'image du reste du périple pour l'instant, on va dire.
C'est quoi? On va se faire un autre segment où tu vas juste nous parler de tes aventures parisiennes. Mais là, je suis convaincu que tu regardes de l'autre bord de la Manche et tu te demandes ce qui se passe là-bas. C'est quoi l'histoire de la photo retouchée de la princesse de Galles?
Ben, en fait, tout ça commence par une panique. En ce qui me concerne, une panique personnelle, parce que c'est comme... C'était-tu la fête des mères hier? Non, en Angleterre, j'avais pas acheté de fleurs pis tout, mais en Angleterre, c'était hier la fête des mères. Okay. Et en fait, c'est que, comme t'as si bien expliqué, puis dans le fond, c'est ça, c'est que, dans le fond, Kate, elle a été opérée, mais elle a été opérée en janvier. Sa dernière apparition publique, c'est le 25, puis le 20. En fait, c'est la plus longue période qu'on l'a pas vue depuis à peu près qu'on la connaît, c'est-à-dire il y a comme 15 ans. Et donc, là, tout le monde commence à s'inquiéter de ce qui se passe avec Kate. Sauf que une photo un peu prise par un paparazzi le 10 mars, non, excuse-moi, le 4 mars est sortie. Elle était assise à côté. Et là, c'était pas une photo officielle. Puis là, ça a fait commencer à faire sortir plein de rumeurs sur les théories du complot. Est-ce qu'elle est une reptilienne? Elle serait peut-être morte? Elle n'existe pas? Bon, tout ça. Et là, pour atténuer les rumeurs et les éteindre, le palais de Kensington, c'est-à-dire, on va dire l'équivalent de Buckingham Palace pour Kate et William, a sorti une photo qui serait prise, apparemment, par William. Et le problème étant, comme tu l'as si bien résumé, c'est que on dirait que c'est quelqu'un qui est non-voyant qui a fait du Photoshop avec Paint parce qu'il y a des gros problèmes avec les cheveux qui sont plus plats que les cheveux d'un chanteur emo des années 2000. Il y a un problème de zipper aussi. Bon, bref. Et là, en fait, tout ce qui était pour faire taire les rumeurs fait juste exploser les rumeurs et les théories du complot. Et là, on est rendu à dire qu'en fait, la maladie de Kate est encore plus importante que le cancer du roi Charles. Que le cancer du roi Charles, en fait, c'est une opération pour cacher la vraie maladie de Kate. Et finalement, tout ça, en fait, c'est comme le gars qui dit à sa blonde, c'est pas ce que tu penses avant même qu'elle dise qu'est-ce qui se passe. Puis, en fait, c'est vraiment une espèce de d'échec total de marketing et d'opération de communication, si bien qu'elle est obligée de faire croire que... Et c'est ça aussi l'autre défaut, c'est que là, elle a fait une lettre d'excuse, qu'elle a dit, ben moi, comme n'importe quel amateur, j'utilise des programmes pour toucher les photos. Je sais pas qui fait ça tant que ça dans la vraie vie, mais apparemment, les photographes amateurs font tout ça. Et le problème étant que comme ça a été retouché, ce qui devait être une photo officielle à partager dans la presse, ça n'a pas pu être retouché, ça n'a pas pu être partagé. Ce qui fait que la presse a retiré la photo. Et là, double scandale, parce que là, ça veut dire que qu'est-ce que la famille royale manipule encore?
Oui, c'est ça.
Et tout ça est un échec, en fait, finalement.
Parce que Philippe, bon, il y a, les cheveux sont flous, je pense qu'il y a une main qui est comme pas vraiment à sa place ou qui a la bonne proportion.
Exact.
Mais, je dois te dire, la fermeture éclair modifiée. On sait que... On sait où passe la fermeture éclair. Ça passe du cou jusque en bas du nombril. Mais on sait qu'elle a été opérée au ventre.
Oui.
Donc, est-ce qu'on essaie de cacher quelque chose au bon peuple?
Moi, là, c'est tout ce que je pense, Patrick, c'est que oui, puis je sais pas c'est quoi. Fait que là, j'essaie de m'incruster dans la haute société parisienne, c'est ça ma double mission, pour ensuite m'incruster dans la haute société britannique. Mais l'autre détail, ce que tout le monde a remarqué, c'est qu'elle porte pas son anneau de mariage non plus dans la photo.
Oh.
Fait qu'il y a beaucoup de « qu'est-ce qui se passe et pourquoi? » Et comme la famille royale nous habitue à un silence, ben là, en fait, pour une fois, ils sont dans une vraie crise, je pense, médiatique, parce que ils seront forcés à publier ou bien la photo originale qui risque de révéler des trucs, ou bien faire une déclaration pour expliquer le pourquoi de « ça a pris 14 heures à dire que j'ai mal utilisé Photoshop ». Fait que finalement, tout ce qu'ils ont voulu faire, ils seront obligés de se rétracter pour atténuer puis éteindre réellement la crise actuelle. Mais là, on s'entend, quand je dis une crise, là, ça reste une crise de Photoshop par du monde qui porte une couronne. Fait qu'on peut prendre notre gaz égal puis dormir en paix ce soir, OK? Tout le monde, là, je veux juste pas que le Canada panique ce soir, c'est tout.
OK, parle-moi de Charles, parce que Charles a eu des problèmes de santé, je pense que c'est un problème Est-ce que c'est un problème de cancer de la prostate?
Oui, c'est un problème de cancer de la prostate, mais là, contrairement à Kate, c'est ça aussi qui est spécial, c'est que Charles a été très ouvert sur sa maladie. Tu sais, on a parlé de la prostate royale et tout ça, puis on a quasiment eu, c'est à peine si on n'a pas eu la vidéo du test. Puis, en fait, Charles est très ouvert sur sa maladie. Il a été vu en public depuis le début de ses traitements, alors que Kate, elle est complètement fermée. Fait que c'est pour ça qu'on commence à se dire, il y a quelque chose de louche. Et Charles, en fait, suit les traitements. Là, aujourd'hui, il y avait une succulente occasion à Westminster Abbey où toute la famille, le gratin de la famille royale s'est réuni. Il n'y avait pas Kate, il n'y avait pas Charles, il y avait Camilla, par contre, et William. Personne n'a parlé. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que là, tu as deux membres majeurs de la famille qui sont obligés d'être un peu en retrait à cause de problèmes de santé. On s'attendrait à ce que le roi, avec son cancer et son âge, soit plus en retrait, puis aussi l'espèce de discrétion royale, plus que la princesse de Galles. Et c'est le contraire. Et c'est là aussi où il y a une anomalie par rapport à d'habitude, parce que généralement, les plus jeunes, c'est moins grave et tout. Et là, on commence à avoir peur pour Kate, en fait. Et Charles, ben, à cause de Kate, il passe un peu dans le beurre. Fait que c'est pour ça qu'on commence à penser à une espèce de théorie manipulation aussi à travers ça.
À la place de Charles, peut-être qu'il pourrait passer, publier une photo, photoshopper elle aussi, puis causer un scandale équivalent pour faire parler de lui.
Oui, ben je pense que la prostate, c'est quand même moins photogénique une photo de famille.
On n'en demande pas tant.
Non, quoi que moi, je prends toutes les photos de la famille royale, y compris la prostate royale.
Bon, je pense qu'on est allé au bout de nos sujets royaux. Hey, Philippe, je vais te réinviter très bientôt. Je veux que tu nous parles de tes aventures parisiennes.
Ça sera avec grand plaisir. Je prends des notes à tous les jours, t'inquiète pas.
C'est au loin du bout de Boulogne, OK?
Parfait.
OK, bye!
Ouais, c'est promis, bye!
Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est le début du procès de Jean-François Malo, promoteur immobilier de Joliette, qui est accusé d'avoir embauché des tueurs à gages qui ont déjà été précédemment condamnés pour tenter de faire tuer un avocat de Desjardins. C'est une histoire dont vous allez beaucoup entendre parler dans les prochaines semaines. Et j'ai pensé inviter le journaliste d'enquête Vincent Larouche de La Presse, qui a déjà fait un portrait de ce monsieur Malo. Salut Vincent!
Oui, salut Patrick.
OK, d'abord, parle-nous de ce dont M. Malo est accusé là, dans la cause de l'avocat Daudelin.
Bon, on l'a dit, l'avocat Nicolas Daudelin, en 2020, s'est fait tirer dessus par des individus qui se sont présentés à sa résidence sur la rive sud de Montréal. Il entend frapper à la porte un soir, quelqu'un demande à lui parler, quelqu'un veut entrer chez lui, et finalement, il se fait tirer dessus à travers la vitre de sa porte. Il est blessé à ce moment-là à la jambe gravement, mais il survit à ses blessures. Et il y a deux fiers à bras, si on veut, qui ont déjà été condamnés à 9 et 10 ans de prison respectivement pour s'être présentés chez l'avocat ce soir-là. Mais ces gens-là n'avaient jamais eu aucunement maille à partir avec l'avocat, ne le connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Et la théorie de la police et de la couronne, c'est qu'ils agissaient pour le compte d'un important promoteur immobilier de Joliette qui était en conflit avec cet avocat-là, parce que cet avocat-là, Nicolas Daudelin, représentait le mouvement Desjardins dans un litige contre le promoteur immobilier.
Et Vincent, alors qu'il vient de se faire tirer chez lui, l'avocat Daudelin dit à sa conjointe, Je suis sûr que c'est Malo.
Il dit, je suis sûr que c'est lui. Il faut appeler mes collègues pour les avertir. Il faut, ils doivent se mettre en sécurité. Il est complètement paniqué à ce moment-là parce qu'il avait vu à quel point ce promoteur immobilier de Joliette, Jean-François Malo, était vindicatif, était vraiment engagé dans une grosse et très litigieuse dispute avec le mouvement Desjardins. Monsieur Malo avait été interrogé directement par l'avocat Nicolas Daudelin et il disait « Vous me faites enrager, ça m'empêche de dormir, ça me rend malade les prêts que Desjardins refuse à mon entreprise immobilière. » Il disait qu'on l'avait blacklisté, qu'on l'avait mis sur une liste noire chez Desjardins et que le mouvement Desjardins était de mèche avec ses concurrents pour essayer d'aider ses concurrents dans la région de Joliette à mettre la main sur certains immeubles.
OK. Vincent, ça se passe en mars 2020, donc au début de la pandémie. En juin 2020, tu as fait le portrait, si je peux dire, de Jean-François Malo. Et je te dirais de comment il était perçu à Joliette. Et il y a quelque chose d'absolument terrifiant, c'est-à-dire que tous ceux qui l'ont croisé et qui ont eu mal à partir avec lui, il leur est arrivé des affaires. On n'a jamais pu prouver que c'était des commandes de Jean-François Malo, mais tu avais un problème, ton cabanon, ton char brûlait, puis ça se pouvait que tu manges une volée dans un parking.
Exactement. Puis c'est une série noire, vraiment, qui s'était étalée sur une dizaine d'années. Et à Joliette, vraiment, ça faisait énormément parler. C'était des gens bien en vue. Écoute, on avait des avocats, des promoteurs immobiliers très influents qui avaient eu, par exemple, leur véhicule brûlé par des cocktails Molotov, parfois même en pleine rue. On avait même un maire de l'époque qui avait vu sa voiture, son cabanon incendié dans un incendie criminel. Un conseiller municipal roué de coups, puis on lui avait volé des documents de la ville. Un directeur général de la ville, son auto avait été incendié. À ce moment-là, la ville était en litige avec M. Malo pour une question de zonage et de taxes. Il y avait une journaliste, une journaliste de l'hebdo local, L'Action à Joliette, qui avait couvert les mésaventures de Jean-François Malo. Elle aussi, un incendie à sa résidence et au bureau de son mari et le véhicule du couple incendié. Et finalement, un gestionnaire de la Caisse populaire Desjardins locale qui est attaqué chez lui, battu et qui quitte son poste ensuite au moment où la caisse est en litige avec M. Malo. La police nous disait on ne peut pas relier directement M. Malo à ça, mais c'est sûr qu'on ne peut pas l'exclure non plus. Ça fait partie de l'enquête. Et M. Malo s'est toujours défendu en disant que ça n'avait aucun lien avec lui, qu'il était complètement innocent de tout ça. Mais ces gens-là, quand on évoquait son nom à Joliette, quand on essayait d'obtenir des informations là-dessus, presque personne ne voulait nous parler. C'était la terreur, et on nous raccrochait souvent même la ligne au nez. L'évocation de tous ces événements-là faisait peur à beaucoup de monde.
OK, revenons au procès de Jean-François Malo, là, qui est accusé d'avoir commandé la tentative de meurtre sur l'avocat Daudelin. Est-ce qu'on sait comment les deux fiers à bras ont obtenu son adresse?
Bon, la théorie de la couronne, c'est que c'est Malo qui aurait fourni l'adresse de l'avocat aux deux fiers à bras et que Malo lui-même l'aurait obtenu de son avocat à l'époque, qui lui aurait fourni un document où on voyait l'adresse de l'avocat qu'il voulait prendre pour cible. Cela dit, on croit comprendre tout de suite que la défense va essayer de démontrer que c'était très facile d'obtenir cette adresse-là et qu'on n'avait pas besoin d'une complicité ou de l'aide de quiconque pour fournir ça. Donc ça va être un des éléments qui va être discuté au procès. Mais chose certaine, le document que M. Malo avait obtenu de son avocat, il a été retrouvé dans le téléphone d'un des fiers à bras, ensuite qui s'est rendu chez l'avocat sur la rive sud de Montréal.
OK. Puis, est-ce qu'on sait ce que les deux fiers à bras ont fait dans les heures qui ont suivi l'attaque de l'avocat de Daudelin?
Bien, ils sont allés se changer de leurs vêtements, premièrement, et ensuite se sont rendus à Joliette, le fief, si on veut, du promoteur immobilier. Et il y a un des deux individus qui a été condamné depuis, mais on l'a vu vraiment tenir des réunions avec M. Malo. Il y avait des échanges de messages sur WhatsApp aussi où on discutait de transfert d'argent. Et, encore une fois, on discutait d'un huissier qui apparemment causait bien des problèmes à M. Malo et ses entreprises et à qui on voulait régler son cas, là, si on veut. Il y avait des discussions à ce sujet-là qui était tenu sur WhatsApp avec les suspects. Donc, encore une fois, des gens qui se retrouvaient sur le chemin du promoteur.
Très intéressant. Merci beaucoup, Vincent. Je te souhaite une bonne soirée.
Oui, on va continuer de suivre le dossier. Merci.
Oui, on va continuer de suivre le dossier et ça devrait durer au minimum 3 semaines. Et l'avocat d'Audelin devrait témoigner, semble-t-il, vers la fin du procès. Je rappelle qu'il y a 2 personnes là-dedans qui ont déjà été condamnées pour l'attaque sur l'avocat d'Audelin. 2 proches de Jean-François Malo. Je vous l'avais dit, retenez ce nom-là. C'est un procès qui est absolument fascinant et terrifiant en même temps.
Patrick Lagacé en accéléré.
On le sait, il y a un véritable débat de société qui est en train de se dérouler au Québec quant à Hydro-Québec. Quels sont nos besoins en électricité? Quels sont nos besoins en production de barrages et de toutes sortes de formes de sauvegarde énergétique aussi? On se pose ces questions-là à l'heure où il y a vraiment un gros chantier à Hydro-Québec qui est dirigé par Michael Sabia. On sait qu'il y a quelques années, on a annoncé à grande pompe de grands contrats d'exportation d'électricité vers les États-Unis. Et aujourd'hui, la journaliste Hélène Barry nous apprend dans un article dans la presse que la construction des 2 lignes de transmission vers Boston et New York vont bon train. Mais on le sait, les prévisions énergétiques sont assez inquiétantes au Québec. On risque de manquer d'électricité au train où vont les choses. On va faire le point avec Yvan Clich. Il est fellow et spécialiste en énergie au CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. C'est un ancien d'Hydro-Québec. Il a été délégué commercial à Hydro-Québec International. Monsieur Clich, bonjour.
Bonjour.
D'abord, peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Moi, je me souviens, quand on était heureux, quand on se vantait chez Hydro-Québec d'avoir des surplus énergétiques, on vendait justement de l'électricité à nos voisins américains, on allait s'enrichir avec ça. Et là, ces derniers temps, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'on risque de manquer d'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bien, il y a eu vraiment un point de bascule au cours des 2-3 dernières années. Les entreprises, il y a eu comme une espèce de boule de neige, d'effet d'entraînement. Les différentes entreprises, municipalités, organisations de toutes sortes ont pris des engagements pour de 0 émission carbone d'ici 2050, se sont attribués des objectifs pour 2030, 2035, 2040, etc. Puis là, ensuite, bien, ils se sont mis à la tâche. Et ils ont, entre autres, hors du Québec, mais aussi au Québec, regardé les endroits où ils pouvaient dire que leur production était décarbonée. Et évidemment, le Québec, maintenant, est apparu sur la carte à l'international parce qu'on est des rares réseaux qui est déjà décarboné. Il faut rappeler que la plupart des pays se sont dotés d'objectifs de décarbonation et la priorité, c'est le réseau de production d'électricité. Or, chez nous, c'est déjà le cas. On est déjà une production à 0 émission de carbone. Donc, un peu tout le monde s'est dit, ben mon Dieu, si on va au Québec, on va déjà pouvoir cocher la case électricité, production industrielle décarbonée. Et là, donc, le Québec est apparu comme une terre très fertile pour installer une production industrielle. Et les demandes de mégawatts auprès d'Hydro-Québec ont explosé.
Okay.
On n'est pas les seuls. Ça a été la même chose en Colombie-Britannique. L'Ontario aussi, il y a une hausse importante de la production d'électricité qui est envisagée parce que les Ontariens sont à 90 % décarbonés, notamment grâce à leur exploitation de centrales nucléaires.
Est-ce que c'est un manque de planification?
Ben, je vous dirais que c'est un peu tout le monde là, qui a vu ce changement très subit qui est intervenu au cours des dernières années. C'est la même chose aux États-Unis, la même chose aussi au Canada, donc au Québec. Il y a eu un coup de semonce qui a été donné l'année en 2022 avec l'adoption de l'Inflation Reduction Act, qui est cette loi phare aux États-Unis qui attribue énormément de crédits à la production à la production aux technologies décarbonées. Et là, ben, un peu tout le monde s'est dit, ben mon Dieu, les Américains vont attirer toute l'industrie de la transition énergétique sur leur territoire. Et donc, le Canada et le Québec ont été obligés de suivre. Ça a été le cas avec un budget fédéral d'avril 2023. Et puis le Québec, comme on le sait, avec sa nouvelle politique, notamment pour attirer des usines de production de batteries.
OK, M. Clich, je lisais vos commentaires dans la presse aujourd'hui. Vous dites que il y a que des avantages à resserrer les réseaux électriques entre voisins. Vous dites qu'il n'y a pas de regret à avoir par rapport à ces contrats qui ont été conclus avec des villes américaines. Mais je regarde nos besoins en électricité. Si on n'avait pas vendu cette électricité-là à nos voisins américains, il me semble qu'on serait dans une position moins difficile pour les prochaines années ici au Québec.
c'est tout à fait, je vous dirais, logique d'envisager la chose de cette façon-là, mais c'est, je pense, une fausse bonne idée. La valeur du mégawatt qu'on vend aux États-Unis, je pense, est plus élevée. Évidemment, il faudrait une étude fine là, pour appuyer tout ça, mais je pense qu'elle est beaucoup plus élevée que celle qu'on pourrait s'attribuer au Québec. Je vous explique pourquoi. Mmh. D'une part, sur le plan financier, un de vos collègues à la presse a fait vraiment produire un article extrêmement fouillé en octobre 2023 et qui disait qu'écoutez, non, ce contrat-là, il n'est pas rentable. Il est extrêmement rentable pour le Québec. Donc, on fait vraiment beaucoup d'argent. Ça, évidemment, ça s'en vient dans les coffres d'Hydro-Québec. La moitié, grâce aux dividendes, vont dans les coffres du gouvernement. Donc, certainement que le ministre des Finances est très heureux de ce contrat-là. C'est un contrat garanti. Donc, on a une garantie de revenus. C'est toujours précieux, ça, en matière commerciale. Mais également, on va se payer une ligne qui va nous interconnecter avec les États-Unis. Au bout de 20-25 ans, quand les contrats vont être échus, ben, la ligne va quand même être là. Ça va nous permettre d'échanger aussi d'électricité. Et dans un contexte de transition et de croissance importante de la demande et de la consommation d'électricité, ça devient un actif très précieux pour la fiabilité et aussi pour intégrer davantage des énergies renouvelables qui sont souvent intermittentes. On parle d'éolien et de solaire. Donc, c'est un avantage aussi technique et qui est très important. Et je vous ajouterai un dernier, c'est que évidemment, quand on vend de l'électricité, d'hydroélectricité dans les réseaux voisins, ça permet à ces gens-là d'aller beaucoup plus vite dans leur effort de décarbonation. Et donc, un gaz à effet de serre qui a été mis au Québec ou qui a été mis aux États-Unis, c'est un gaz à effet de serre. Donc, on leur permet d'aller plus vite. On parle là, de centaines de milliers de voitures, d'émissions de voitures équivalentes qui sont évitées par la vente par ces deux contrats qui sont signés à New York et le Massachusetts. Donc, c'est quand même des bénéfices à la fois financiers, environnementaux et techniques significatifs.
Vous dites que c'est aussi une façon d'accroître l'influence, le poids politique du Québec chez nos voisins. Expliquez-moi en termes concrets comment on devient un joueur politique plus important parce qu'on leur vend de l'électricité.
Ben, écoutez, quand ces contrats-là, ce sont des contrats de grande importance pour les États qui sont concernés. Ils ont des objectifs de décarbonation aux États-Unis dans les territoires limitrophes qui sont très conséquents. Ce sont des lois. Donc, ils doivent atteindre ces objectifs-là. Et l'achat d'électricité propre du Québec, ça compte énormément pour l'atteinte de ces objectifs. Et les délégations du Québec et de New York, si vous leur parlez, vous allez voir que pour eux, c'est toujours une carte maîtresse. Quand ils se présentent auprès de décideurs dans ces États-là ou auprès d'acteurs économiques, c'est toujours pour une carte maîtresse de dire, vous savez, nous, on vous vend une grande quantité d'électricité. On est des partenaires dans vos objectifs de décarbonation. Et vous savez, avec les contrats de New York, ça va être 20% de la ville de New York va tirer son électricité du Québec. Donc, c'est une carte prestigieuse. Vous allez à Times Square, vous pourrez dire que 20% de l'électricité que vous voyez ça à Times Square, ben ça vient du Québec. Donc, c'est une carte importante et idem pour le premier ministre. Quand il se promène ou qu'il parle à ses interlocuteurs, la présence des contrats d'exportation, c'est toujours, toujours au sommet des discussions entre les dirigeants politiques et économiques.
Intéressant. Merci d'avoir été avec nous, M. Clich. Bonne journée.
Merci.
À la prochaine. Yvan Clich, fellow et spécialiste en énergie au CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationales de l'Université de Montréal. On l'a abordé vers la fin de l'entrevue, la diplomatie de l'électricité, si on veut. Donc, peut-être que c'est une façon d'accroître notre influence chez nos voisins américains. On sait que, ben, politiquement, le Québec, le Canada, c'est pas toujours sur le radar des États-Unis.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.